Passage sur RCN, Hélène Ingret.
Bonjour auditeurs de Brassage. Et ce brassage, j'espérais ne pas avoir à le faire à cet automne 2024, tout simplement parce que j'avais eu la possibilité de faire l'interview d'un des deux conférenciers qui est intervenu à Toul au début 2024 par rapport à ce projet de statut de Bijard sur le domaine public avec l'accord de la municipalité de Toul. Et il se trouve, eh bien, que la statue est à présent dans ce domaine public et que la mobilisation, eh bien, s'est accrue à présent au niveau national, puisque retenez la date du 11 janvier 2025, une manifestation nationale à Toul pour qu'il n'y ait pas cette statue de Bijard. Un collectif à l'époque a été mis en place, qui est bien sûr toujours en action, pour faire en sorte que cette statue réintègre la fondation Bijard d'où elle est sortie. Et je vous propose d'une part d'entendre une personne de ce collectif et d'autre part ensuite un des deux historiens qui intervenus d'une façon particulièrement intéressante sur le contexte historique et surtout aussi les faits qui sont en lien avec ce personnage, entre guillemets, Bijard, qui s'est fait notamment connaître internationalement par rapport à ses pratiques de torture. Bonjour Madame Isabelle Marc.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs.
Alors justement, je vais vous laisser vous présenter parce que il se passe des événements potentiellement quand même graves sur le secteur de la Lorraine et il y a un collectif qui s'est monté. Alors tout d'abord, eh bien, présentez-vous et présentez-nous ce collectif.
Alors, comme vous l'avez dit, ce collectif s'est monté sur Toul. Moi, je suis touloise et militante syndicale et pour les droits humains, on va dire. Nous avons appris dans la presse que la mairie de Toul avait accepté le don d'une fondation Bijard d'installer une statue du général Bijard en uniforme de parachutiste avec son béret et ses médailles dans l'espace public et dans l'espace des monuments du souvenir et du monument d'hommage aux résistants à la barbarie nazie. Donc nous sommes indignés. Notre indignation a rencontré également celle d'un ancien appelé en Algérie qui avait déjà interpellé monsieur le maire de Toul. Et voilà comment le collectif est né. Il se trouve que la LDH de Lorraine avait été interpellée par ce monsieur ancien combattant d'Algérie. Donc nous avons réuni nos énergies pour prendre parole publiquement contre cette statue et pour organiser une conférence d'information sur le rôle du général Bijard pendant les guerres coloniales.
Alors, tout d'abord, j'ai toujours habitude pour décliner les sigles, donc la LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme, non, que vous voilà. Avez, voilà. Et puis, je pense à nos jeunes auditrices et auditeurs qui se disent, Bijard, alors bien sûr, mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour les plus anciens, difficile de ne pas savoir pourquoi il était, entre autres, connu. Mais est-ce que vous pouvez justement nous présenter et savoir pourquoi vous vous opposez à cette... nous opposons, parce que je pense que d'autres personnes aussi, et je me mets aussi sur les rangs, ont été sidérés de voir ce projet accepté par la mairie de Toul. Et surtout, un militaire en uniforme de parachutiste, parce que c'est notamment... dans le cadre de son action militaire en tant que parachutiste, disons, dans la hiérarchie des parachutistes, puisqu'il commandait, qu'il s'est, entre guillemets, illustré. Alors, vous pouvez nous en parler davantage?
Alors, le général Bijard a participé, donc après avoir été résistant, ce qu'on doit lui reconnaître, il a participé à la guerre d'Indochine. Et il est toujours dans sa légende auto-créée, dans ses livres, etc., considéré comme le héros de Dien Bien Phu. Bon, la guerre d'Indochine qui était une guerre de libération du peuple vietnamien, n'oublions pas. Et à la suite, il a été impliqué dans la guerre d'Algérie. Et pendant la guerre d'Algérie, il a commandé une brigade de parachutistes qui a été notamment très très mise en cause dans ce qu'on a appelé la bataille d'Alger en 57. Alors, la bataille d'Alger, c'est une offensive de l'armée française à qui le gouvernement a donné les pleins pouvoirs et des pouvoirs de police pour réprimer la résistance algérienne, à la veille d'une grande grève générale de 8 jours qui avait été initiée par le FLN pour montrer l'implication pacifiste des Algériens dans la revendication d'indépendance. Donc à la veille de cette grande grève coloniale, on a envoyé de nombreux régiments et entre autres parachutistes dans la Médina, dans Alger, pour arrêter des gens et pratiquer une politique de terreur. C'est-à-dire que de nombreuses personnes ont été battues, violentées, arrêtées, mises au secret, sans que leur famille n'ait de leurs nouvelles. Quand on parle aux Algériens de Bijard, tout de suite, la réaction, c'est « Ah, les crevettes Bijard ». Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que les crevettes Bijard. Ça donnera une idée du personnage. Quand on avait torturé des personnes dans des endroits secrets, pour qu'il n'y ait pas de traces à charge, si vous voulez, de l'armée française…
Oui, parce je me permets de vous interrompre. Moi, je l'ai appris lors de la conférence avec ces deux excellents historiens. Ils signalaient qu'au départ, ils balançaient, excusez le terme, les corps
à
la mer. Et les habitants d'Alger ont commencé à en avoir marre de voir revenir avec les courants les corps vers la plage, en fait.
Voilà, de leurs compatriotes. Et donc, Bijard a eu l'idée ingénieuse de sceller les pieds de ces personnes dans un bloc de béton, de façon à ce qu'ils ne réapparaissent pas quand on les balance des hélicoptères. Il faut savoir aussi que Bijard a été impliqué dans la formation de nombreux militaires dans une ville qui s'appelait Philippeville, où il y avait une école de formation des cadres des parachutistes, où il a enseigné les méthodes de ce qui s'appelait la guerre contre-insurrectionnelle, pardon, et que ces méthodes ont été exportées en Amérique du Sud, et notamment dans les dictatures chiliennes et argentines, les auditeurs ne sont pas sans savoir que lors des pratiques des dictatures, en particulier en Argentine, il y a de nombreuses personnes qui ont disparu de cette façon-là. Ces techniques-là ont été utilisées. Bon, il y a des éléments, parce qu'on nous rétorque souvent, mais il n'y a pas de preuves. Il y a quand même de nombreux éléments mis à jour par les historiens qui ont montré, par exemple, que le régiment et la brigade que Bijard commandait avaient été à l'origine de nombreuses arrestations pendant cette bataille d'Alger. Donc, nous, on considère, nous, si vous voulez, qu'on ne peut pas honorer un tel personnage, on ne peut pas promouvoir la torture, les mauvais traitements qui sont des actes de barbarie et des actes criminels condamnés par le droit. On ne peut pas non plus promouvoir la colonisation, parce que ces guerres que sont des guerres d'indépendance. Donc Bizarre, il est intervenu contre des personnes qui revendiquaient leur indépendance en tant que peuple. Et donc la colonisation qui instaure l'inégalité en principe et qui est à la source de beaucoup de racisme. Et donc par rapport à... C'est pour ça aussi que nous souhaitons que notre action, elle soit largement diffusée et on est aussi soutenu par de nombreuses organisations et associations parce qu'on considère que dans la lutte contre le racisme et les idéologies d'extrême droite qui fracturent la société actuellement, la colonisation est bien souvent à la source de leur mode de pensée. Et nous considérons qu'installer un symbole de ces modes de pensée dans l'espace public, c'est donner un très très mauvais signal pour l'avenir et de notre ville, et de nos enfants, et du pays.
Brassage sur RCN, Hélène Ingray.
Brassage consacré à, hélas, Bijard, le titulé, c'est « Vous avez dit Bijard ?» car cette statue se trouve dans le domaine public et nous avions au printemps interviewé un des deux conférenciers. L'autre conférencier, vous pouvez retrouver un entretien dans Parole de paix sur RCN au niveau donc du printemps 2024. Et par ailleurs, l'ensemble de la conférence a été capté par Radio Déclic. Nous allons à présent entendre ce conférencier, Alain Ruscio. Allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour monsieur Alain Ruscio, donc historien, voilà. Et je lis votre carte de visite, histoire de la colonisation française, parce que justement, j'ai pu faire votre connaissance, je veux dire, côté auditrice de la conférence que vous faisiez avec un autre collègue d'ailleurs, au sujet de ce projet donc de statut sur le domaine public à Toul. Et justement, vous nous avez particulièrement éclairé quant au, je dirais, au personnage, parce que il a essayé de fonder une légende à son niveau, au personnage de Bijard. Alors, déjà pour nos auditrices et nos auditeurs, et pour des anciens, notamment, quand on parle Bijard, enfin disons à mon niveau, c'était aussi ça, Bijard c'était, dans ma tête, déjà, bien sûr, on parlera ensuite de l'Algérie, mais c'était Dien Bien Phu, c'était quasiment le sauveur de Dien Bien Phu. Alors, est-ce que
il a contribué à forger cette légende, d'ailleurs.
Voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, parce que il y a eu un documentaire, il n'y a pas très longtemps, sur une chaîne publique, sur Dien Bien Phu, très bien fait, et je me suis attendue, à la fin du documentaire, qu'on n'arrête pas de parler de Bijard. Silence radio, pas du tout mentionné. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce militaire, Marcel Bijard, par rapport à cette guerre d'Indochine, d'ailleurs ?
Oui. Alors, effectivement, la première chose qu'on peut dire, c'est que, selon une formule, d'ailleurs, que j'ai reprise d'un journaliste du Figaro, il a été assez habile pour forger lui-même sa légende. Et ça, c'est vrai pour la totalité de son parcours militaire et politique, d'ailleurs. Pour Bijard en Indochine, son aventure commence très tôt, puisqu'il est parachuté sur le Haut-Tonkin, ce qu'on appelle Haut-Tonkin, qui correspond au Nord Vietnam actuel, parachuté en 1946. Donc, vous voyez, ça fait...
Juste après la libération de la France, quoi, quasiment.
Juste après la libération de la France et l'arrivée du corps expéditionnaire français en Indochine, qui va malheureusement déboucher sur une guerre de 7 années. Et Bijard va être omniprésent en Indochine. Il va avoir des faits d'armes absolument réels. Donc, on parle par exemple d'une percée dans la région de Toulé, également dans le Haut-Tonkin, où il a fait preuve d'un courage physique indéniable et de une capacité guerrière indéniable. S'il n'y avait eu que ça, ben il serait un officier qu'on peut respecter, parce qu'après tout, il faisait son métier, c'était les politiques qui avaient décidé d'envoyer l'armée en Indochine. Mais le portrait ne s'arrête pas là. puisque Bijar a été également celui qui a pratiqué, je dirais, justifié et pratiqué la torture, ce qui n'est quand même, ce qui est loin d'être un détail, qui est quand même central et ce qui ne correspond absolument plus au, à l'image du guerrier chevaleresque, si vous voulez. Alors, à l'appui de cette affirmation, j'ai un témoignage qui a été recueilli par une journaliste du Monde qui s'appelle Florence Baugé, qui a interrogé dans les derniers temps de sa vie le général Massu, qui était donc le supérieur de Bijar. Et Massu rencontre Bijar en Algérie, dans une scène de torture, et Massu lui dit « Mais ben, Bijar, quand même, trempez pas les mains dans cette affaire ». Et Bijar lui répond « Mon général, nous avons commencé en Indochine, on ne va pas s'arrêter maintenant
oui. ».
Donc ça, ce ne sont pas des calomnies, ce sont des faits établis et des déclarations de Massu qui n'était pas a priori un adversaire de Bijar et nullement un antimilitariste primaire. Donc voilà, ça c'est l'autre face beaucoup moins glorieuse de Bijar. Alors, à Dien Bien Phu, il a été présent. Il a été présent, courageux, incontestablement. Il a été dans le tout premier parachutage, donc en novembre 1953, parce que la bataille de Dien Bien Phu s'achève le 7 mai 1954. Dien Bien Phu, c'est une idée du général Navarre, qui est le commandant en chef, qui est d'essayer de faire un barrage à l'armée Viet Minh, comme si la conception de barrage était recevable dans une guerre de ce type. Donc on ne barre rien en Indochine. Si les Vietnamiens avaient voulu, ils auraient tout simplement contourné le camp. En tout cas, Dien Bien Phu est un camp fortifié très très important, dans lequel plusieurs milliers de parachutistes sont envoyés ensuite à la suite de Bijar. Et donc il va y avoir un combat au corps à corps. Certains ont parlé d'un Verdun vietnamien, parce que c'était vraiment une bataille extrêmement éprouvante, assez épouvantable pour les deux camps, bien sûr. Et Bijar va y tenir son rôle, mais parmi d'autres. D'abord, il n'est pas du tout commandant en chef de Dien Bien Phu, il est un des colonels, il était d'ailleurs, je crois, lieutenant-colonel en réalité. Il est un des officiers supérieurs qui va mener cette bataille, encore une fois avec courage, aux côtés de bien d'autres, parmi lesquels le général De Castres, qui est quand même celui qui commande le camp, et De Castres a complètement disparu des mémoires, au bénéfice justement de ceux qui se sont mis au premier plan. Donc il y a plein d'autres, il y a le général Gilles, il y a le colonel Langlais, le colonel Touret, enfin il y a beaucoup d'officiers qui ont un rôle comparable à celui de Bijar. Donc il a été un combattant parmi d'autres, encore une fois son courage physique, je crois que personne ne le met en cause.
Oui, c'est par ce niveau-là qu'il y a justement un mouvement citoyen très large, hein, national maintenant, par rapport à ce projet de statut sur le lieu public. Mais justement, pourquoi je souhaitais qu'on commence pour parler de ce qui s'est passé ensuite en Algérie, parce qu'en fait, ces militaires-là ont été vaincus par, dans leur tête, c'était, alors, je caricature, peut-être à peine, en disant des sous-hommes militaires, hein, puisque, enfin, disons, ces Vietnamiens, enfin bon, c'était à l'époque, au niveau des nationalités, c'était pas encore le Vietnam en tant que tel, mais il y avait, c'était les Viettes, comme ils disaient, il y avait quand même cette notion de revanche, en quelque sorte. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait cette notion aussi de revanche, je fais peut-être un raccourci, vous allez me dire, de cette race supérieure, même s'il n'y a qu'une seule race humaine, mais des Blancs par rapport à des autres personnes, et qu'effectivement, en Algérie, ils n'allaient pas revivre la même chose et qu'ils allaient pouoir mater cette révolte, entre guillemets.
Oui, bah, vous avez tout à fait raison. Le simple fait, d'ailleurs, que l'armée française ait tendu ce piège à Dien Bien Phu était quand même le signe d'un mépris considérable pour l'adversaire. Ils n'avaient pas compris qu'ils avaient en face d'eux, d'une part, un général de génie qu'il faut toujours citer parce que même ses adversaires reconnaissent que c'est probablement un des génies militaires du XXe siècle, c'est-à-dire le général Giap. D'une part, donc, ce général qui a vraiment construire une armée à partir de rien. À partir de rien, en 45, les premiers éléments de l'armée vietnamienne sont des éléments équipés de vieux pétoirs, de quelques fusils récupérés, des choses comme ça. Et il en a fait une armée moderne, avec l'aide, bien sûr, de la Chine et de l'Union soviétique à l'époque. Tout comme la France a été considérablement aidée par les États-Unis, ne jamais oublier le pourcentage dans le budget de la guerre d'Indochine. À la fin de la guerre, les dollars américains payaient 80% des frais de l'armée française. Il ne faut jamais oublier ça.
Oui, dans le documentaire, ça fait froid dans le dos parce qu'à un moment donné, ils ont filmé, ils ont pris en considération une proposition qui était faite par un alors je ne sais pas si c'était le président américain, enfin disons très très haut placé au niveau des États-Unis, qui a tout simplement proposé de mettre à disposition deux bombes nucléaires, et puis l'affaire sera réglée. Quand même les Français n'ont pas accepté.
Bien sûr, bien sûr.
Non mais ça fait froid dans le dos quoi, c'était Hiroshima qui aurait été renouvelé quoi.
Bien sûr, bien sûr. Alors je termine quand même sur la question de race, puis je vous réponds tout après sur la question atomique. Donc sur la question de race, effectivement, il y a cette notion de dire ces petits hommes jaunes, parce que c'est l'expression de l'époque, ces viettes, le viet était considéré et vraiment utilisé comme un terme méprisant à l'époque. Certains disaient même les Nyakwe. Alors donc, les Nyakwe, je fais juste une petite explication de vocabulaire. En vietnamien, ça veut dire paysan, homme du peuple, en quelque sorte. Et c'était devenu une insulte dans la bouche de beaucoup de militaires et de civils en Indochine. Donc voilà, et que ces gens-là, ces petits hommes jaunes, aient réussi à vaincre les grands hommes blancs, était effectivement un aspect vexatoire considérable. Et suite à quoi, effectivement, l'idée qu'en Algérie, on ne pourrait pas nous avoir deux fois, je paraphrase ce qu'il pensait, s'est imposée immédiatement. Ajouter à cela le fait que les militaires français considéraient qu'ils avaient été trahis par la société française, par les politiques, par l'opposition à la guerre en France. Donc tout ça, on nous la fera pas deux fois. Cette fois-ci, on va mettre le paquet et on va écraser les Fellaga comme on a essayé d'écraser les Viet. Voilà, donc c'est l'état d'esprit de l'époque et je dirais que d'une certaine façon, l'OAS, qui est né bien plus tard, qui est né en 61, mais les prémices de l'OAS sont nées pratiquement dans la cuvette de Dien Bien Phu. Après la défaite, c'est le volonté de revanche. Voilà, il fallait se venger sur ses sous-hommes. Voilà où on en était.
Parce que, donc, ensuite, après cette défaite en Indochine, donc, en fait, le pouvoir politique a envoyé le début de la guerre d'indépendance, en Algérie, ont commencé à partir de quel moment est-ce que ça a été déjà un peu dans la foulée de la défaite d'Indochine? Parce qu'au niveau des dates, ça se rapproche, on va dire.
Bien sûr, bien sûr. Oui, bon, ce que je peux dire, c'est que tout le monde colonisé de l'époque, n'oublions pas que au moment où la guerre d'Indochine commence, c'est-à-dire 45-46, la France a encore un empire considérable. Donc elle domine tout le Maghreb, elle domine une partie de l'Afrique subsaharienne, l'Indochine, sans compter les confettis de l'empire. Donc Madagascar, etc., etc. Et donc, on a beaucoup de témoignages qui disent que les colonisés, les plus conscients, en tout cas les plus politisés, regardaient la lutte du Vietnam d'une façon très très intéressée en se disant voilà des gens qui en quelque sorte montrent le chemin quoi. Évidemment, plus l'armée française reculait, parce qu'il n'y a pas eu que des Vien Phu, il y a eu d'autres défaites, plus l'armée française reculait, plus c'était un motif d'espoir pour les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Malgaches, etc. etc. Alors, et donc, Dien Bien Phu était considéré comme une victoire par ces gens-là.
Parce que, justement, pour un peu, disons qu'on saisisse le contexte un peu de l'époque, pendant la guerre, 39-45, notamment sur le front de l'Est, il y a eu ce film indigène qui relate quand même bien les choses. Il avait été les Français d'Algérie, on va dire, les autochtones n'avaient pas le même statut, n'avaient pas le même droit que les Français de souche entre guillemets qui se trouvaient en Algérie. Et il y avait eu des promesses en quelque sorte à la suite de leur implication dans la libération de la France, de redonner davantage de droits ou même. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots, parce qu'il y a eu aussi une grande déception à ce niveau-là peut-être du côté algérien. Rien compte tenu des promesses auxquelles ils pensaient qu'elles seraient tenues, quoi.
Oui, alors, moi je suis assez réservé sur cette notion de promesse, parce que je crois que c'est un petit peu une réécriture de l'histoire.
Non, mais c'est important de savoir, justement.
Quand je dis réécriture de l'histoire, je n'accuse personne. Hein. Pardon, mais je constate. En réalité, on constate que les résistants français, l'immense majorité des résistants français, le programme du CNR en fait foi, n'avait pas une opinion arrêtée, et en tout cas une opinion libératrice sur le sort des colonies. C'était une question secondaire pour eux, ce qui, encore une fois, on doit le respect à cette génération qui a lutté pour la libération de la France, mais l'association d'idées entre libération de la France et libération des colonies n'existait pas à l'époque. Et donc, pour beaucoup, la fin de la Seconde Guerre mondiale devait marquer une sorte de, non pas de retour au statu quo, mais d'une sorte de modernisation de l'Empire français. Et lorsque les colonisés s'y opposaient, eh bien c'était la guerre. Il ne faut pas oublier qu'en 1945, il y a eu les massacres du Constantinois en Algérie. En 1946, le début de la guerre d'Indochine. En 1947, les massacres de Madagascar. Donc, vous voyez, ça, c'est que les gens qui sont au pouvoir à ce moment-là en France sont d'anciens résistants, commencé par le général de Gaulle jusqu'à début 1946. Ensuite, des gens comme Georges Bidault, Pleven, enfin, tous ces gens-là sont des résistants authentiques et en même temps ne comprennent pas que les peuples colonisés, les peuples de couleur comme on disait, veulent également leur libération.
Avant d'aborder plus précisément les actions de Bijar en Algérie qui lui valent la désapprobation au minimum, la désapprobation de le glorifier dans le domaine public à Toul, est-ce que vous pourriez nous donner des informations, moi je les ai eues très sommairement parce que c'est méconnu, sur le sort qu'on a réservé aux soldats militaires venant de l'Afrique, hein, pas uniquement d'Algérie, venant de l'Afrique, d'une part pour la période où ils ont pu retourner chez eux. Moi j'avais entendu une fois un documentaire sur une radio qui signalait qu'ils avaient été mis un peu cantonnés dans des baraquements, dans des camps, hein, et il y avait eu une révolte parce qu'ils n'avaient pas été payés de leur solde, enfin je ne sais plus exactement, et qui s'était terminé d'une façon hyper dramatique. Et c'est très méconnu. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en toucher deux mots ?
Bien sûr. Excusez-moi, mais avant, je reviens à la fin de ma... Parce que l'un et l'autre, on veut aller très vite. Mais j'ai pas complètement répondu à votre question sur l'association entre Dien Bien Phu et le début de la guerre d'indépendance de l'Algérie. Juste pour rappeler la chronologie, hein. Dien Bien Phu, c'est le 7 mai 54. Les accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine, c'est le 20 juillet 54. Et l'insurrection algérienne commence le 1er novembre 54. Donc, il n'y a pas de coïncidence dans ce domaine, si vous voulez. Les Algériens ont compris que le moment de la lutte armée, même si ils avaient beaucoup moins de moyens que les Vietnamiens à l'origine, mais que le moment de la lutte armée était arrivé. Donc, je pense que, d'ailleurs, je cite souvent cette phrase de Ferhat Abbas, qui est ensuite le président du gouvernement provisoire algérien, qui disait que Dien Bien Phu avait été le Valmy des peuples colonisés, c'est-à-dire en quelque sorte le signal du déclenchement de la lutte finale, finalement, contre le colonialisme. Voilà. Bon, je reviens maintenant à votre précédente question sur le sort des colonisés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu effectivement à Tiaroy, donc au Sénégal, un massacre de tirailleurs qui venaient de faire la guerre aux côtés de l'armée française, donc qui étaient des militaires engagés, hein, et qui n'avaient effectivement pas touché la totalité de leurs soldes, qui ont commencé à protester et ensuite à vouloir se révolter. Il y a eu une fusillade qui a amené la mort de plusieurs de ces tirailleurs. J'ai pas le chiffre en tête, mais c'était un premier massacre colonial, si vous voulez. Et d'une façon générale, quand les colonisés, on vous parlait du film Indigène, d'ailleurs on le voit bien, lorsqu'ils reviennent au pays à la fin, et bon, ils se sont comportés honorablement, et beaucoup d'entre eux sont morts, beaucoup d'entre eux ont été traumatisés, blessés, etc. Mais les survivants qui reviennent s'aperçoivent que la situation la situation sociale, politique n'a pas changé, et que les colonisateurs veulent continuer à instaurer leur domination qu'ils croient éternelle à l'époque. Effectivement, il y a eu cette... probablement que ça a été un élément déclencheur dans la prise de conscience de beaucoup qui se sont dit que finalement, le colonialisme français ne pouvait pas mourir tout seul, mais qu'il fallait l'accompagner par la lutte politique ou la lutte armée.
Alors, pour terminer, par rapport aux différences de traitement, justement, pour des militaires qui avaient fait donc la guerre de 39-45, est-ce que vous pouvez nous préciser par rapport, justement, la différence qui était faite au niveau... je crois que c'est Chirac qui a mis un terme à ça, à la suite dans son visionnage, je crois, même du film Indigène. Mais enfin, il y avait eu quand même quelques décennies qui s'étaient passées depuis. Alors, est-ce que c'était les pensions d'anciens combattants?
Tout à fait. C'était les pensions qui n'étaient pas égales, qui avaient été gelées auprès de... j'ai pas en tête la date, enfin, qui avaient été gelées à un certain moment. Évidemment, pour les pensionnés de guerre français de métropole, ou enfin les citoyens français, ça continue à être augmenté, indexé sur l'inflation, alors que ça a été gelé pour les indigènes. Et donc c'est vrai qu'il y a, bon, il y a l'anecdote célèbre de Chirac qui voit le film à l'Élysée, dans le cinéma privé de l'Élysée, en présence probablement de Jamel Debbouze, de Roger Zem, etc. Et qui dit à Bernadette, c'est Bernadette qui dit à Jacques, d'après ce qu'on a su, Jacques, ça ne peut pas continuer comme ça. Chirac, qui était un homme solidement de droite, mais qui avait quand même un certain sens des valeurs, va essayer de mettre fin à cette injustice, qui mettra plusieurs années avant qu'il y ait une revalorisation réelle des pensions. Et évidemment, entre-temps, je crois que le film Indigène, il y a à peu près une quinzaine d'années, donc il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient très, très âgés, qui étaient déjà morts. Donc eux ont connu l'injustice en permanence.
Alors, d'une façon maintenant plus précise, le militaire Bijard, en Algérie, et ces faits, entre guillemets, hélas, qui ne sont pas que des faits d'armes.
Oui, alors bon, là, comme vous le... Je pense que vous avez dû parler longuement avec mon collègue Fabrice Rizzofuti, avec qui nous avons animé la soirée.
Il y a eu un interview dans le cadre d'une autre émission Parole de paix, sur RCN, où effectivement il relate. Et moi j'ai appris à ce moment-là, bon, comme quoi, auditrice et auditeur, hein, dites-vous bien que votre modeste animatrice, elle apprend plein de choses en faisant les émissions. J'ai appris parce qu'effectivement, l'argument du maire de Toul, c'est dire, Bijard n'a jamais été condamné. Et pour cause qu'il... Alors, c'est dans le cadre de l'interview de votre collègue que j'ai appris que d'entrée, il y a eu l'amnistie, donc circuler, il n'y a rien à voir. Non, on hallucine. On ne peut actuellement parler de tous ces faits que dans un cadre historique, donc...
Bien sûr, bien sûr. Mais oui, le rôle de Bijard en Algérie a été le même que celui en Indochine, celui que je viens de décrire, à savoir une expérience de terrain où effectivement il a baroudé, puisque c'était le mot qu'on employait à l'époque, à la tête de ses troupes. Souvent, il montrait l'exemple, et donc il a également combattu militairement pur, mais également il a été un praticien de la torture, un praticien. Il a même été un temps nommé à la tête. Je l'ai décrit dans un article qui a une quinzaine d'années, donc je ne l'ai pas fait uniquement pour la circonstance. Bijard a été nommé à la tête de l'école Jeanne d'Arc, du côté de Philippeville, qui était une école où on apprenait les interrogatoires poussés. Donc, vous voyez les guillemets nécessaires. En réalité, on apprenait les meilleures techniques pour tirer des prisonniers le maximum de renseignements. Et alors, quand les prisonniers ne parlaient pas, bon, ça allait jusqu'à la torture, et puis à l'exécution. Puisque, comme vous le savez sans doute, en tout cas beaucoup de gens le savent, pas assez sans doute, mais il y a eu également des exécutions sommaires sous l'appellation des crevettes Bijard. C'est une chose qui est aujourd'hui démontrée, prouvée, connue de beaucoup de spécialistes et une partie du grand public. Les crevettes Bijard, c'était tout simplement les gens qui avaient été trop amochés ou qui étaient en état pratiquement de coma, qui étaient embarqués dans des hélicoptères et largués au-dessus de la Méditerranée, dans la baie d'Alger, avec des détails absolument abominables. Par exemple, les premiers qui ont été largués, bah, lorsque les courants les ont ramenés vers la berge, bah, évidemment, ils étaient décomposés, mais ça commençait à se murmurer. Et les services de Bijard, je ne sais pas si c'était lui-même, mais en tout cas les services de Bijard ont décidé que ces gens-là auraient les pieds coulés dans un bloc de ciment pour demeurer de manière... Mais ils étaient projetés au-dessus de la mer, et alors qu'ils étaient encore vivants, mais très très esquintés, très amochés, très très torturés, mais encore vivants. Donc c'était des crimes, de guerre. Il n'y a pas, et j'assume mes mots.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu l'amnistie. On pourrait imaginer, comme par exemple, je fais un parallèle avec certains actes de crimes de guerre, par exemple, qui ont été faits par des militaires américains, qui actuellement font l'objet d'instructions judiciaires, parce qu'il n'y a pas eu une amnistie après certaines guerres américaines. Mais l'amnistie interdit tout cela, quoi. On met le couvercle sur la chose et...
Absolument, oui, mais on met le couvert sur la chose parce que la chose est inavouable, mais également parce qu'il y avait des complicités politiques. Parce que, bon, si vous voulez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Bijard parce qu'à l'issue de l'initiative de la mairie de Toul, mais moi, je tiens toujours à souligner que les responsables de toutes ces guerres de décolonisation sont les politiques, les gouvernants, tous les gouvernements de la 4e République et des débuts de la 5e République ont non seulement ordonné la répression, ordonné les guerres coloniales, mais justifié les pires choses ou caché les pires choses. Donc évidemment, l'amnistie, imaginez qu'il n'y ait pas eu d'amnistie, il y aurait eu des procès, bah, les militaires auraient pu à bon droit se retourner vers les politiques en disant « mais on a des preuves que vous avez donné tel ou tel ordre ». Donc c'était une auto-amnistie en réalité, ce qui est le contraire du droit.
C'est auto-amnistie. Parce que justement, l'occasion, des fois ce voile se lève légèrement. J'ai souvenir, il y a donc quelques temps, par rapport à Gisèle Halimi, donc, qui est rentrée au Panthéon, et il y a eu un certain nombre de documentaires qui retraçaient son action, notamment en tant qu'avocate par rapport aux combattants algériens entre autres, et donc a été signifié et des noms, hein, dont l'ancien président aussi de la République, François Mitterrand, mais là je parle sous votre contrôle, où il y avait des droits de grâce qui étaient demandés par... Et en fait, c'était quand même les politiques qui posaient des actes, et des actes particulièrement durs, par rapport aux droits de l'homme, on va dire, au niveau aux droits de l'homme ou aux droits de la guerre, quoi.
Oui, bien sûr. Bon, je sais bien que ça peut peut-être peiner un certain nombre d'auditeurs de gauche qui ont encore quelques illusions sur Mitterrand. Bon, moi, je ne porte pas de jugement sur Mitterrand président.
Non, c'est en tant qu'acte par rapport à, quand, par rapport à la période de la guerre d'Algérie.
Oui, hein, oui, c'est bien ce que je voulais dire. Oui, oui, tout à fait. Moi, je ne porte pas de jugement sur les deux mandats de François Mitterrand sous la Ve République, mais par contre, sous le quatrième, il a été ministre pour la première fois en 1947. Il a été pendant une dizaine de gouvernements sous le cadre de la Quatrième République. Et parmi les postes qu'il a occupés, il a été d'abord ministre de l'Intérieur au moment du déclenchement de la guerre d'Algérie, où il employait une formule qui est passée à la postérité. Et là aussi, je tiens pour les auditeurs la référence exacte. Il a dit en novembre 54, la seule négociation, c'est la guerre. Il était dans un esprit totalement guerrier. Et puis ensuite, sous le gouvernement Guy Mollet, qui commence en début 56. Il était garde des Sceaux, donc en tant que garde des Sceaux, c'est lui qui avait les dossiers des condamnés à mort qui passaient sur son bureau, et il a utilisé le droit de grâce seulement, je crois, de l'ordre de 10 ou 15% des cas, c'est-à-dire à chaque fois qu'il refusait le droit de grâce, c'était un Algérien ou un Français, puisque Fernand Yveton a été guillotiné en 1957, à chaque fois c'était un combattant de l'indépendance algérienne qui était guillotiné.
Je vous propose une petite pause musicale de Matoub Lounès, artiste qui a été assassiné pendant la décennie noire en Algérie et qui était un humaniste et dont la mémoire est célébrée sur le Grand Nancy, d'une part sur le plateau de Haye et également à Vendeuvre, où il y a une allée à son nom, notamment en lien avec l'association culturelle berbère. Nous reprendrons ensuite la fin de cette interview de ce conférencier.
بنيت طرغا يلثم غليين انت ذل السبب ويا ورنزرور نسين اتزلست بنيت طرغا يلثم غليين انت ذل السبب ويا ورنزرور نسين روح حيث بير سري في فذرين روح حيث بير جوج جدنا ذاكوين خلقنا غيد الفثنا كسيس من الدين نموت عند الشهداء وشر الدين الشهداء في ربي تشمار وذنر كل تزوي فرنسا وثني دن تسدار مموت عند الشهداء في ربي تشمار وذنر كل تزوي فرنسا وثني دن تسدار روح حيث بير سري في الفدار روح حيث بير ورزق لي سمار هضر سنفذ نباسا يفضحن الاسرار اليمين ذلال الهرباء صلوات الرمي والنار رغل كي طيت سوالين يلس يقوهم نتم برز ذل سنين نقارة تصقم رغل كي طيت سوالين يلس يقوهم نتم برز ذل سنين نقارة تصقم روح حيث بير الزوزرة سيرم روح حيث بير يلا ذروم دهم نستي ثقبيلين مويشبح يسم ويفشل نغوين يغلي نزدفك انتو ذم
Alors, ouais. Par rapport, justement, avant de nous quitter, parce que je pense que, justement, vous avez fait référence à un de vos articles, et j'ai histoire donc dans votre présentation de historien, histoire de la colonisation française, est-ce que vous pouvez nous signaler des ouvrages que l'on pourrait se procurer, ou qu'on pourrait peut-être consulter dans des médiathèques, des sites où on pourrait retrouver vos articles ou vos interventions, parce que c'est grâce à des historiens comme vous que nous pouvons avoir accès à, disons, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, et là, au moment où on enregistre, eh bien, il y a tous ces événements dramatiques par rapport aux Kanaks, à la libération de leur territoire, et on se dit que... Moi, je préparais cette émission et j'entendais les infos et je me disais, c'est pas possible, ça fait résonance, quoi. C'est...
Et oui, et c'est drôle ce que vous me dites, parce que moi, je disais, pas plus tard que ce matin, en écoutant les infos, je disais la même chose à ma famille. J'ai l'impression d'entendre c'est toujours la même rengaine, si vous voulez. Ce sont des sauvages, ce ne sont pas des vrais résistants, ce sont des gens qui utilisent la question nationale pour couvrir leur brigandage, etc. Et puis la manipulation de l'extérieur. Là, on a découvert l'Azerbaïdjan. Là, j'avoue que je suis tombé de ma chaise, mais de la même façon que lorsque les Vietnamiens combattaient, c'était parce qu'ils étaient poussés aux fesses par les Chinois, ou lorsque les Algériens combattaient, c'était parce qu'ils étaient dirigés par l'Égypte de Nasser, etc. C'est la même logique. C'est la même logique qui se met en place, donc c'est pas très réjouissant, parce qu'on a l'impression effectivement qu'on se bat contre des moulins, mais bon, il faut continuer, quoi.
Mais c'est essentiel d'avoir des personnes qui vont au cœur même de la vérité pour pouvoir aussi nous informer d'une façon plus correcte, avant que vous nous donniez vos références où on pourrait se reporter. Moi, hier, j'ai été très surprise, d'ailleurs le journaliste qui l'interviewait, c'était sur Culture ou sur Inter, je sentais qu'il était un peu gêné, mais c'était son invité par téléphone, c'est un professeur d'histoire et de économique également, donc sur ce secteur de Nouméa, et il faisait une analyse du contexte géopolitique et puis surtout des inégalités qui frappaient essentiellement donc les autochtones par rapport aux Français venant de métropole, et c'était, on sentait que c'était hyper étayé, et le journaliste était presque essayé un peu de l'empêcher de parler, pas vraiment l'empêcher, mais il a terminé quand même son interview, et je me suis dit, si on n'a pas ces informations là, on comprend pas les pillages, on comprend pas, parce que il analysait ce que représentait ces actes de pillage par rapport à ce sentiment de frustration plus que les Kanaks vivaient, quoi.
Oui, d'autant plus que la récente décision du président Macron et de l'Assemblée nationale pour changer complètement le corps électoral a été un élément déclencheur. C'est une injustice criante. Essayons de nous mettre quelques secondes à la place des Kanaks qui s'aperçoivent que la règle du jeu est changée. C'est comme si un arbitre changeait au milieu d'un match de rugby, changeait les règlements et puis favorise une équipe au détriment de l'autre. C'est une tricherie étatique, il n'y a pas d'autre mot.
Et hélas, je ne veux pas dire que l'histoire repasse les plats, mais il y a un peu de ça quand même parfois. J'aime pas trop ça, mais mais si vous êtes mieux placé que moi pour en parler à ce niveau-là.
En tout cas, je peux quand même répondre à votre question.
Oui, alors, oui.
Si j'ai deux ou trois livres à vous conseiller, il y a le livre de Fabrice Ressoputi sur Le Pen et la torture. Donc c'est un autre personnage, mais évidemment c'est un personnage annexe. Mais il y a quand même cet aspect-là. Moi, j'ai fait donc cet article, je crois qu'il doit être sur le site Histoire Coloniale, donc je peux vous donner référence du site. C'est très simple, c'est Histoire Coloniale à coller, donc sans espace, sans point, .net. Et donc, c'est un espace qu'un certain nombre d'historiens, et j'en fais partie avec Fabrice Ressoputi, avec Gilles Manseron, qui alimentons avec bien d'autres collègues, avec Malik Aral également, qui alimentons ce site et qui donne des informations pour moi fiable et assez peu, enfin assez décroissante.
Oui, hélas. au moins les médias publics devraient quand même se faire le relais davantage. Ils le font partiellement.
Oui, partiellement, mais si on reprend l'exemple de la Kanaky aujourd'hui, écoutez, sur les grandes chaînes d'information, quels sont les experts qui sont invités, c'est uniquement des généraux qui vont encore nous expliquer comment il faut régler le...
Alors j'avoue que moi, parce que j'ai essayé, je cible en plus mes sources, c'est-à-dire que c'est effectivement c'est France Culture, bon, je ne vais pas aller sur BFM, bon, peut-être que exceptionnellement on peut trouver des choses plus objectives, mais pendant plusieurs jours, alors que les émeutes grossissaient de plus en plus et étaient de plus en plus violentes, je me suis dit, mais quand est-ce qu'ils vont expliquer la règle du jeu qui a changé le... Parce qu'ils disaient génériquement, donc on ne comprenait pas trop, on disait, oh c'est gentil, il y a eu une modification. Et c'est qu'au troisième jour, parce qu'effectivement c'était plus tenable, qu'il y a eu l'explication des effets de cette modification de règle du jeu. Mais auparavant, on n'en parlait pas. Alors que c'est quand même du basique sur le plan informationnel, je dirais, pour un journaliste.
Oui, bien sûr.
Donc, d'où l'importance de relayer des sites comme les vôtres. Donc, histoire coloniale tout attaché en minuscules, .net.
Oui.
Et puis, également, donc, le livre dont vous avez parlé, donc, Le Pen et la torture de Fabrice Récuputé, donc c'est R-I-C-E-P-U-T-I, hein, au niveau de son nom. Et puis, eh bien, moi je pense que, je ne sais pas si on aura l'occasion de bénéficier encore de vos éclairages lors de conférences, mais...
Écoutez, je connais la route maintenant, je peux venir...
Oui, parce que vous êtes... Enfin, c'est pas le Grand Est, mais vous jouxtez le Grand Est, en fait.
Oui. Moi, je suis en région parisienne, mais enfin, bon, je peux...
Ah, d'accord, ok. Oui, alors je me suis trompée, parce que c'est Fabrice Récuputé...
Non, c'est Fabrice qui est, je crois, Besançon.
Voilà, hein. C'est ça, oui, j'avais inversé, excusez-moi.
Je suis en région parisienne.
Autant
je suis
pour
dans,
moi.
Dans le 93.
D'accord. Donc, en fait, on retient histoirecoloniale.net. Hein, c'est surtout
absolument.
Ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Alain Russiaux, donc historien, et plus particulièrement, donc, historien de la colonisation française. Eh bien, ah oui, alors si, parce qu'en fait, si moi je suis en train de mélanger les deux historiens, le Paris colonial, c'est vous qui l'avez fait ou c'est...
Ah oui.
Ben voilà, parce que je ne l'ai pas marqué sur la carte, j'ai marqué des choses, mais je n'ai pas tout marqué. Alors si, attendez, parce que là, pour les personnes... Même si elles vont pas aux Jeux Olympiques ou plus tard dans des années à venir, parce que cette émission repassera dans d'autres moments, est-ce que vous pouvez quand même, est-ce que cet ouvrage, il est toujours disponible? Est-ce que, sinon, peut le trouver en médiathèque? Parce que ça, c'est quand même important. Ah, si, allez, on reste encore quelques instants avec vous. Parlez-nous de vos ouvrages.
Avec grand plaisir. Bah, écoutez, alors c'est un ouvrage que j'ai écrit en fait avec un collègue qui est là, c'est décédé avant la parution, donc ce sera toujours une petite déchirure à chaque fois que j'en parle, parce que Marcel Dorigny était un collègue et ami depuis longtemps. Donc le titre complet c'est Paris colonial et anticolonial, promenade dans la capitale, quelque chose comme ça. Et donc c'est un livre publié aux éditions Hémisphère, qui est le...
Alors
qui est
édition, plus récent, pardon, on va réépiler.
Hémisphère, comme les hémisphères au pluriel.
Ah d'accord, ok.
D'accord. Donc, ça a paru en 2024, en janvier, je crois.
Tout récent.
Voilà, c'est une sorte de guide qui recense, je ne vais pas dire tout, parce qu'on n'est jamais exhaustif, mais enfin, beaucoup de lieux liés à l'histoire coloniale et à l'histoire anticoloniale. Donc, ça va des plaques de rue, des monuments, bien sûr, il y a beaucoup de monuments, les monuments au maréchal Lyautey, au général Gallieni... au général Mangin, enfin beaucoup de gens qui ont été des militaires liés à l'histoire coloniale, aux conquêtes, etc. Vous voyez, il n'y a pas de statue Bigeard à Paris, puis il n'y en aura jamais.
Ben, j'espère qu'on ne sera pas amené à faire la Lorraine coloniale et anticoloniale, parce que si en plus on a la statue Bigeard à Toul, on a le sergent Blandin en Nancy, et encore, c'est les deux seuls que je connais en statue, hein, mais il y en a certainement d'autres.
Alors, donc oui, nous avons donc fait ce recensement, avec évidemment à chaque fois un appareil critique, une description et puis une contextualisation de chaque axe. Alors il y a des rues connues, hein, le boulevard Jules Ferry à Paris, bon, on parle quel était le rôle de Jules Ferry, et puis on recense également des lieux qui n'existent plus mais qui ont été liés à l'histoire coloniale, donc par exemple le siège de certaines associations qui étaient liées au lobby colonial, par exemple. Les monuments, alors bien sûr le musée actuel de l'immigration qui est l'ancien palais des colonies, qui est une masse énorme, le monument à la gloire du général Marchand, porte dorée. Et puis, alors, fort heureusement, depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée à la direction de la ville de M. Delanoë, il y a eu des inaugurations honorant des militants anticolonialistes, comme Maurice Audin, assassiné par les parachutistes en 1957, comme l'émir Abdelkader, comme le général de Bollardière, qui était le seul officier qui s'est opposé à la torture en Algérie. Donc, vous voyez, il y a quand même une sorte de rééquilibrage depuis quelques années qui fait que Paris n'est pas seulement une ville coloniale, enfin, aux traces coloniales, mais qu'il y a également quelques traces anticoloniales qui sont visibles encore aujourd'hui dans l'espace parisien.
Donc, Paris colonial et anticolonial aux éditions Hémisphère, donc qui vient de paraître début 2024. Et comme je dis toujours à nos auditrices, à nos auditeurs, si vous ne pouvez pas ou si vous ne souhaitez pas l'acheter, faites-le acheter dans la médiathèque la plus proche. Comme ça, vous l'empruntez et surtout, d'autres peuvent continuer à l'emprunter. Parce que... Ah non, mais c'est... Il n'y a pas d'autres ouvrages qui seraient susceptibles d'être connus de nos auditrices et auditeurs, si j'ai une mauvaise mémoire, non, c'est...
Sur l'Algérie, moi j'ai commis également un livre qui s'appelle Nostalgérie, en 2017, aux éditions La Découverte, qui est là une histoire un petit peu de la mouvance OAS et tout ce qui a tourné autour de l'OAS, c'est-à-dire une sorte d'exaltation de l'Algérie française.
Oui, de paradis perdu.
Paradis perdu, etc.
Pour certains,
la notion d'Algérie heureuse, la notion, et puis l'usage de la violence, à l'état pur, d'une part en Algérie et puis également ensuite en métropole. Donc oui, cette histoire de l'OAS est une histoire faite de sang et qui est aujourd'hui encore est méconnue et parfois même réhabilitée par certains nostalgiques de l'Algérie française.
Eh bien, on va se quitter sur ces deux références, hein, donc bibliographiques, plus le site histoirecoloniale.net, en vous remerciant beaucoup pour toute votre action d'éducation populaire, hein, on va le dire comme ça, parce que c'est essentiel.
Oui, j'assume cette notion.
Merci encore, Monsieur Russio.
Merci à vous et bon travail.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Brassage sur RCN, Hélène Ingret.
Brassage dont l'intitulé est, vous avez dit, bizarre, à retrouver sur le www.rcn-radio.org. Après avoir dit un grand merci à Joris pour cette mise en onde et à Tsiganiski pour notre générique. À bientôt dans un prochain brassage.